France Culture.
Bonjour à tous. Les transferts d'otages israéliens doivent se dérouler de manière digne et privée. Le comité international de la Croix-Rouge sort de sa réserve au lendemain d'un nouvel échange d'otages contre des détenus palestiniens, alors que 74 otages israéliens vivants comme morts sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Jour de vote au Kosovo, où le Premier ministre sortant, Albin Kurti, teste sa popularité lors d'un scrutin suivi de très près par l'Union européenne dans le pays le plus jeune d'Europe et considéré comme le plus démocratique des Balkans. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Slogan de la nouvelle campagne contre le trafic de drogue lancée par Bruno Retailleau et axée sur la culpabilisation des consommateurs. Et puis nous reviendrons sur les résultats des élections agricoles marquées par une percée sans précédent de la coordination rurale. Résultats décryptés par notre invité François Pursaigle, sociologue de l'agriculture. Au lendemain d'un nouvel échange d'otages israéliens contre des détenus palestiniens, Benjamin Netanyahou ordonne la réduction des quantités d'aide humanitaire dans la bande de Gaza en réaction à l'état de santé des otages apparus très amaigris et présentant des signes de malnutrition. Leur libération face à un public lors d'une mise en scène orchestrée par le Hamas ont choqué les Israéliens, mais également le comité international de la Croix-Rouge qui appelle à ce que les transferts d'otages comme de détenus palestiniens se déroulent de façon digne et privée. Et leur porte-parole, Christian Cardon.
Il faut que ça change. Et donc, on en appelle à tous ceux qui ont la possibilité d'avoir une influence sur ces opérations pour s'assurer justement qu'elles se passent avec plus de dignité, plus de respect, en respectant aussi des principes humains de base. Donc, on attend que ça change. Et puis, effectivement, elle nous rappelle aussi ces images que, bien évidemment, on aurait dû avoir accès à ces personnes. Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge, aussi bien par rapport aux otages à Gaza que par rapport aux détenus palestiniens, il est fondamental maintenant et urgent qu'on puisse avoir accès et qu'on puisse aussi s'assurer du bien-être de ces personnes. On est dans une zone de guerre, il faut le rappeler. Donc ce qui peut apparaître comme une opération uniquement logistique est en fait bien plus compliqué que cela et puis nécessite avant tout un sens humain très important de nos collègues qui sont préparés à réceptionner des personnes qui effectivement sont passées par des moments extrêmement, extrêmement compliqué. Avant ces opérations, pendant l'opération, il y a un dialogue, mais également après pour s'assurer qu'on puisse tirer certaines leçons et s'assurer que les prochaines se passeront mieux. Donc oui, là, on a appelé très clairement à beaucoup plus de discrétion. C'est dans ces environnements-là qu'on a l'habitude de travailler plutôt qu'une exposition qui met énormément de pression pour les personnes, pour les otages en particulier et leurs familles, évidemment.
Christian Cardon, porte-parole du CICR, le comité international de la Croix-Rouge, invité de France Info ce matin. 74 otages israéliens sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Et malgré les menaces de Benjamin Netanyahou, qui entend toujours éliminer le Hamas, l'armée israélienne a totalement évacué ce matin le couloir de Netzarim, couloir qui coupe la bande de Gaza en deux parties. Un départ des troupes israéliennes prévu par l'accord de trêve. Les discussions sur la suite de cette trêve doivent reprendre demain à Doha. Et si le Qatar s'est imposé comme le principal médiateur dans ce conflit. L'Égypte annonce aujourd'hui l'organisation d'un sommet d'urgence des pays arabes, sommet qui se tiendra le 27 février. Pour discuter des derniers développements graves liés à la question palestinienne, précise le ministre égyptien des Affaires étrangères. Après l'annonce faite par Donald Trump d'un plan visant à placer Gaza sous contrôle américain et déplacer les habitants de l'enclave vers l'Égypte et la Jordanie. Donald Trump, qui s'invite ce soir au Super Bowl aux États-Unis, premier président américain à assister au plus grand événement sportif aux États-Unis, la finale de la Ligue professionnelle de football américain. Plus de 100 millions d'Américains sont attendus devant leur télévision pour suivre le match entre Kansas City et Philadelphie. Et plus de 100 000 visiteurs seront, eux, à la Nouvelle Orléans, où se tient la rencontre. Une ville qui se remet toujours d'une attaque terroriste le 1er janvier dernier. Un homme se revendiquant de l'organisation État islamique avait tué 14 personnes à bord de son pick-up avant d'être tué par la police. Loïc Piala.
Depuis une semaine, chaque fois qu'il ouvre ses volets, Joey voit la garde nationale dans sa rue. Il vit au coin de Sainte-Anne et Bourbon Street, en plein dans le quartier français, le cœur touristique de la Nouvelle-Orléans frappé par un attentat il y a un mois.
C'est bizarre, avec un côté dystopique. On a l'impression qu'on ne peut pas faire la fête.
350 membres de la garde nationale s'ajoutent aux policiers de la ville et à ceux de l'État. En tout, près de 3000 hommes et femmes pour sécuriser la ville. Plus des snipers sur les toits, un hélicoptère au-dessus du quartier français et les gardes-côtes en patrouille sur le Mississippi. Ce couple venu de l'Iowa a fait 14 heures de route pour soutenir les Kansas City Chiefs.
Ce n'était jamais comme ça les fois où je suis venu. Il y a des policiers au carrefour, mais pas de militaires et pas toutes ces armes.
Les armes, on en a plusieurs chez nous, alors ça ne me dérange pas du tout.
Comme tous les samedis, les bars de Bourbon Street sont pleins et bruyants. Rob, fan des Eagles de Philadelphie, s'allume un cigare sans inquiétude.
L'ambiance est fantastique. Il n'y a aucun endroit dans le pays où on se sent plus en sécurité en ce moment. Mais je serai venu de toute façon. On ne peut pas laisser un idiot tout gâcher pour tout le monde.
Dans le quartier français ce week-end, les glacières sont interdites. Elles pourraient cacher un engin explosif. Les fans, en revanche, ont le droit de s'y balader avec une arme à feu en vertu du Second Amendement.
Loïc Piel a envoyé spécial à la Nouvelle-Orléans pour ce Super Bowl qui débute à 00h30, heure de Paris. Les Kosovars appelés aux urnes aujourd'hui pour élire leurs 120 députés et désigner leur prochain chef de gouvernement. Le Premier ministre sortant, le social-démocrate et nationaliste Albin Kurti, fait figure de favori. Un favori avec qui les Européens ont appris à composer depuis son arrivée au pouvoir en 2021. Pourfendeur des ingérences serbes et russes, sa victoire serait donc vue comme un bon signal pour les Européens. Les précisions depuis Bruxelles de Fabien Cazot.
Comme lors des précédentes élections législatives, l'Union européenne a dépêché au Kosovo une mission d'observation électorale. Objectif, s'assurer que les opérations de vote se déroulent convenablement, sans ingérence de la part du grand voisin serbe ni de son allié russe. C'est l'eurodéputée française Nathalie Loiseau, spécialiste des sujets d'influence étrangère au Parlement européen, qui supervise cette mission parlementaire au Kosovo.
Historiquement, c'est au cœur de l'Europe. Les Balkans, à chaque fois qu'on regarde ailleurs, se rappellent à notre souvenir et pas toujours de manière très pacifique. Leur sort a un impact sur l'Union européenne. Donc on a besoin d'y prêter attention, d'autant plus qu'on sait que dans tous les Balkans, il y a une ingérence russe très forte, il y a une ingérence turque qui n'est pas négligeable. Le Kosovo a la chance d'être une démocratie pluraliste. J'espère que les élections vont bien se passer.
La nature ayant horreur du vide, explique un haut fonctionnaire à Bruxelles, l'Union européenne tient à affirmer sa présence au Kosovo. Les élections législatives lui en donnent une bonne occasion, surtout après les dernières élections en Géorgie et en Roumanie, entachées de soupçons de fraude et de manipulation via les réseaux sociaux.
Il n'y aura pas de conflit à l'intérieur du gouvernement sur les sujets d'identité nationale. C'est ce que le Premier ministre affirme dans les colonnes du Parisien aujourd'hui, alors que son idée d'organiser un large débat sur l'immigration divise au sein même de la majorité. Le chef du gouvernement souhaite être le garant de la bonne tenue de ce débat, dit-il, tandis que son ministre de l'Intérieur ne cesse d'accentuer la pression sur les questions migratoires. Bruno Retailleau estimant ce matin dans le JDD qu'un 500 000 d'entrées par an, c'est trop, et que la France ne maîtrise plus les flux migratoires. Le locataire de la place Beauvau, qui a lancé par ailleurs cette semaine une nouvelle campagne de lutte contre le trafic de drogue, avec un clip choc, diffusé à partir d'aujourd'hui à la télévision, dans les transports publics et sur les réseaux sociaux. On y voit des jeunes qui consomment de la drogue dans un cadre festif, jusqu'à ce qu'une ligne de cocaïne s'enflamme à une silhouette humaine dessinée sur le sol. Bonjour Estelle Caméraire.
Bonjour.
Alors plutôt que de sensibiliser les consommateurs, Bruno Retailleau entend les culpabiliser.
Oui, avec ce slogan.
Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez.
Les images montrent un usage récréatif de la drogue, une façon de responsabiliser toute la population avec une métaphore autour de la société, explique Karine Berthelot-Guillet, professeure au CELSA et spécialiste de la sémiantique des images publicitaires.
On a l'impression que tout l'embrasement urbain et les problèmes que connaît sa société à travers le réverbère et à travers la voiture en feu seraient dus à la drogue. Alors, c'est pas totalement exact, mais c'est aussi une façon d'analyser les choses. L'État fait le choix de dire « attention, ce système de drogue, il met le feu à la société ».
Pour Karine Berthelot-Guillet, ce clip rappelle les nouvelles campagnes de sensibilisation à l'alcool au volant, plus choquantes pour marquer le public, comme l'annonce du coût de la vidéo, 2 millions d'euros financés avec l'argent de la drogue saisie.
C'est un classique des présentations qui justifie le fait qu'on n'a pas jeté par les fenêtres l'argent de l'État et qu'en plus on réutilise de l'argent qu'on a saisi pour essayer de faire, même si c'est choquant, c'est quand même une prévention. C'est pas que de la culpabilisation, ça donne les gestes qui doivent s'arrêter aussi.
Quant à l'efficacité de la campagne, ça dépendra de sa diffusion. Karine Berthelot-Guillet doute qu'elle touche vraiment les personnes concernées. Mais l'objectif principal, c'est la prise de conscience de la société en général pour insister sur la lutte contre la drogue menée par le ministère.
Estelle Camerer, l'hégémonie de l'Alliance FNSEA Jeunes Agriculteurs remise en cause après les élections agricoles. Alliance qui a perdu jeudi 21 chambres d'agriculture face à la percée de la coordination rurale. Au terme d'une campagne axée sur le dégagisme, le syndicat et ses bonnets jaunes ont remporté une majorité de voix parmi les chefs d'exploitation dans 14 départements. Bonjour François Pur-Seigle.
Bonjour.
Vous êtes sociologue de l'agriculture, professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Alors peut-on véritablement parler d'un basculement des rapports de force dans les chambres d'agriculture ?
Pas exactement, on peut pas dire qu'il y a un basculement, on voit bien qu'il y a une percée très très forte de la coordination rurale, notamment dans les territoires en colère du sud-ouest de la France. Il faut regarder aussi de près les chiffres de la participation, qui est relativement stable. On a aussi beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas pris part au vote. Et on a la confirmation d'une tripartition idéologique de cet espace professionnel, avec une gauche paysanne qui peine à parler finalement à un certain nombre d'agriculteurs en colère, et une coordination rurale qui rafle la mise, et cette FNSEA qui peine à engranger des voix aujourd'hui dans ces territoires en colère.
La coordination rurale, oui, qui rafle la mise, vous dites, notamment dans le sud-ouest, en Gironde ou encore dans le Tarn, donc dans des départements où le syndicat était parfois récemment implanté. Comment vous expliquez un tel succès ?
Il y a un vrai travail qui a été fait dans ces territoires, un travail de conquête, on ne peut pas le négliger. Ce sont des territoires aujourd'hui qui se pensent désarmés sur le plan industriel, sur le plan des outils de transformation, de conditionnement. Ce sont parfois des territoires en crise, qu'on fait ce qui se passe en Gironde. On a aujourd'hui aussi des territoires du sud-ouest de la France dans lesquels les listes FNSEA, JA, ont été bousculées par des tensions internes. On a finalement un manque de renouvellement aussi dans certaines FDSEA qui explique le fait que finalement ces fragilités ont fait le jeu de la coordination rurale.
La coordination rurale qui engrange aussi, si on s'éloigne un peu du sud-ouest, la coordination rurale engrange des voix dans les zones plus intermédiaires, en centre-Val de Loire notamment, mais là les problématiques sont différentes sur ces territoires. Est-ce que faut y voir aussi la radicalisation d'une partie du monde agricole ?
On sent bien qu'un certain nombre d'agriculteurs sont tentés par des votes extrêmes, mais ça fait plutôt le jeu, on le voit sur le plan électoral, de l'extrême droite. Mais attention, il ne faut pas confondre quand même les résultats aux élections de chambre d'agriculture et les résultats aux autres scrutins nationaux et locaux. Attention, c'est aussi l'expression d'une colère, c'est aussi l'expression de l'incapacité de certaines organisations à l'échelle départementale à incarner finalement des ruptures profondes qui se jouent, et c'est aussi un monde qui ne veut pas mourir et qui l'exprime à travers ses résultats.
Alors ce monde qui ne veut pas mourir l'a exprimé en Haute-Garonne en mettant en tête la liste indépendante Unie pour notre avenir, soutenue par Jérôme Bail, figure du mouvement de protestation des agriculteurs l'année dernière. Face à des figures comme ça, la FNSEA n'a finalement rien pu faire.
C'est vrai en Haute-Garonne, c'est vrai dans l'Ariège où il y a eu des tensions importantes au sein de la FDSEA et des JA. On a en Haute-Garonne effectivement un leader qui a percé, qui a réussi sur le registre de l'émotion à incarner des colères. Il a su parler avec les mots que les agriculteurs et les agricultrices souhaitent entendre, et il a su aussi porter un discours finalement d'une certaine vérité aussi à l'échelle de ce territoire et plus en lien aussi avec des problématiques locales, et ce qui fait que cette liste a remporté largement l'élection en Haute-Garonne.
Alors en quelques secondes François Pur-Seigle, la FNSEA reste majoritaire mais passe en dessous de la barre symbolique des 50%. Comment elle peut se relever ?
Il faut savoir aussi que le pouvoir agricole ne se situe pas uniquement au sein des chambres d'agriculture. Les pouvoirs agricoles se situent dans l'appareil économique, dans les coopératives, dans les associations spécialisées. Attention, le pouvoir du syndicalisme majoritaire ne s'exprime pas uniquement dans et sur les scènes du développement agricole. Et on voit bien que finalement, à l'échelle locale, l'État a plutôt l'habitude aussi de négocier avec cette organisation. C'est pas nouveau, hein, ces effritements dans le paysage professionnel agricole, mais pour la première fois, effectivement, la FNSEA connaît en revers certains dans la plupart des territoires français.
Merci beaucoup François Pursec. Je rappelle que vous êtes sociologue de l'agriculture, professeur des universités à l'Institut National Polytechnique de Toulouse. Un mot de météo avec le retour des nuages sur le quart nord-est ainsi que du massif central au golfe du Lion. Des pluies sont attendues de la Loire-Atlantique à la Dordogne. Comptez 4 à 8 degrés sur la moitié nord, 7 à 15 degrés sur le sud.